Jacques Biollet, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien, très bien.
Vous êtes l'auteur de ce fameux roman, donc Dans la rue de Balthus, édité chez Biro. C'est un roman, je le disais, qui est sous forme d'enquête pour tâcher de comprendre et de percer le mystère des peintures de Balthus. C'est un livre, et ça c'est évidemment indispensable, mais encore fallait-il y penser, accompagné d'un tiret à part.
Un petit fascicule de
16 pages qui présente les œuvres dont parlent vos protagonistes dans ce livre, à savoir Guido et Sophia. Alors, c'est un livre assez étrange, c'est un objet étrange, ce livre, entre l'enquête, entre le décryptage, entre la tentative de compréhension. Qu'est-ce que vous avez voulu écrire au départ, Jacques Biollet ?
Oui, c'est vrai que c'est un livre d'une certaine manière polymorphe, puisque c'est un roman, mais à l'intérieur de ce roman, il y a le parcours à travers l'œuvre de Balthus. Initialement, je pensais écrire un texte beaucoup plus bref, peut-être de 40 ou 50 pages, qui s'intéressait à ce tableau que vous avez évoqué, qui s'intitule La rue, qui a été peint en 1933 et qui nous montre 9 personnages dans une rue de Paris. Ce tableau, depuis 1933, fascine, émerveille, décontenance les gens qui l'ont vu. Et comme la plupart des gens qui s'intéressent à Balthus, j'ai lu des textes très intéressants des amis de Balthus de l'époque. Je pense à Pierre-Jean Jouve, par exemple. Il y a aussi d'autres écrivains comme Jean Clair qui ont écrit des textes très éclairants sur Balthus ou d'autres encore. Et je restais malgré tout interdit, je dirais, stupéfait par ces 9 personnages. Balthus ne cesse de dire que ce sont des formes, des éléments de composition et qu'il ne faut pas aller chercher plus loin. Mais toujours est-il que la première fois que je l'ai vu, en 1983 et ensuite en 1993, ici à Lausanne, quand il était présenté, j'ai toujours été effaré par ce tableau. À savoir qu'il semblait me dire quelque chose ou me parler de certaines réalités que je connaissais, mais moi-même je ne pouvais rien en dire. Je restais muet. Comme si je voyais quelque chose dont je connaissais peut-être les origines ou la substance, mais une sorte de mutisme me prenait. Je n'aurais absolument rien pu dire de ce tableau. Et personnellement, je ne suis pas forcément intéressé, comme vous l'avez dit, à décrypter ou à analyser, à aller déflorer peut-être le mystère d'un tableau. Mais en 2001, il y a un élément nouveau qui a été décisif pour moi, c'est qu'est paru la correspondance de Balthus de ces années 30. Alors je me suis précipité sur cette publication qui est survenue juste après le décès de Balthus, grâce aux 2 fils de Balthus qui ont mis à jour toute cette correspondance. Et à la lecture de ces textes, il m'a semblé qu'il était possible de pénétrer un peu plus dans la vie de ce jeune homme de 25 ans qui a peint ce tableau très énigmatique.
L'énigme, le mystère sont des éléments qui sont très très présents dans tous les tableaux de Balthus, même lorsqu'il peint un paysage. On ressent peut-être, pas tout le monde, mais en tout cas c'est le cas de la majorité des personnes qui voient ces tableaux-là, comme une sorte de sourde inquiétude. Il y a toujours quelque chose de très mystérieux dans les tableaux de Balthus.
Oui, quelque chose parfois, je dirais même d'effrayant.
Et d'inquiétant. Oui.
D'inquiétant. Et je pense que cet aspect effrayant survient, je dirais, à l'insu de Balthus. Certaines œuvres de certains peintres sont souvent un hommage à la nature, un hommage à l'harmonie, à la beauté. Je pense par exemple à un peintre comme Bonnard, c'est un peintre du bonheur de vivre. Il y a plusieurs manières d'être peintre. Et il y a des peintures plus étranges, plus inquiétantes. Je pense à Jérôme Bosch ou à Bruegel ou par exemple à Piero della Francesca qui est le maître de Balthus, celui auquel il se réfère souvent. Et ces peintres-là, je dirais presque à leur corps défendant, du moment qu'ils sont devant une toile blanche, ils vont faire affleurer, ils vont faire apparaître, ils vont faire vibrer des mondes inquiétants qui appartiennent peut-être à leur psychisme, mais qui vont au-delà, je pense, de leur propre ego et qui font partie d'un fond universel qui nous appartient à nous tous.
Et qui sont clairement inquiétants. En tout cas, pour prendre l'exemple des tableaux de Jérôme Bosch, ça ne fait pas l'ombre d'un doute.
Voilà. Alors, je ne pense pas que Balthus, c'est la thèse que j'essaye de défendre dans ce livre, n'est pas conscient, n'a pas une démarche absolument claire sur ce qui va émerger dans son tableau, parce qu'en même temps qu'il peint, il va découvrir ce qui émerge. Et ce n'est pas étonnant que Balthus ait souvent été très sceptique vis-à-vis de ce qu'on disait de son œuvre, parce qu'il n'aimait pas qu'on parle de son œuvre. Lui s'attaquait à ce mystère. Vous savez qu'il passait parfois des années sur le même tableau à la recherche d'une vibration qui lui était précieuse et qu'il parvenait finalement à trouver. Et dans le cas de Balthus, je pense que ce monde inquiétant a ses ramifications très profondes dans le monde de l'enfance. Pour nous, l'enfance, c'est le monde de l'émerveillement, de la découverte de l'univers, des grands yeux émerveillés devant le monde. C'est une découverte et souvent nous avons une vision restrictive, voire édulcorée du monde de l'enfance. Balthus, lui, a commencé à être artiste vers l'âge de 10 ans, je dirais. Vous savez qu'il a peint cette série de 40 dessins qui s'appelle Mitsu, qui ont été préfacés par Rilke, qui a été impressionné par ce qu'a fait ce jeune garçon de 10 ans.
Rilke était un ami de la famille.
Un ami de la famille, oui. Je crois que dès le début, le monde qui est celui de Balthus est celui de l'enfance. Mais comme je viens de dire, non pas l'enfance rose, mais l'enfance qui connaît aussi ses terreurs. Parce qu'un enfant qui découvre ce qu'est le monde des adultes, il découvre des choses qui le stupéfient, qui le décontenancent. Et à lire Balthus, on le voit très précisément parce qu'il l'affirme dans ses lettres, il veut toujours se rattacher à ce monde de l'enfance. C'est le monde du merveilleux, mais pour accéder à la totalité de ce monde, il s'agit de prendre l'entier de l'enfance. Donc Balthus, je crois, sa vie durant a gardé le contact aussi avec les terreurs très primitives que connaît un enfant et qui peut-être nous-mêmes nous échappent maintenant, parce que nous sommes dans un monde structuré qui est celui de l'adulte avec un langage et nous avons su faire taire ces frayeurs initiales. Tandis que Balthus, je crois, dans son œuvre, c'est son creuset secret, je dirais, c'est toujours référé à ce monde de l'enfance. Et il le dit, c'est pas une chose qu'on peut imaginer, on le retrouve dans ses écrits, dans ses déclarations.
C'est pourtant quelqu'un de très secret, Balthus, lors d'une présentation à Londres de ses tableaux, vous le rapportez dans votre livre, il se présente devant l'auditoire et dit « bon ben voilà, je m'appelle Balthus, je fais des tableaux, bon maintenant passons à autre chose, allons voir les peintures ». Enfin,
voilà.
Alors qu'on lui demandait d'expliquer son travail, que tout le monde était très attentif à ce qu'il allait pouvoir dire, car c'était quelqu'un de très mystérieux et de très secret. Voilà. Comment expliquez-vous ce goût du mystère chez lui? Parce que même lorsqu'on lui demande de se présenter, de faire un autoportrait, il se montre de dos.
Oui.
Il y a cet humour-là, puis en même temps...
Oui. Il y a un côté félin aussi. Vous savez que le chat est son animal fétiche, et le chat ne se soumet pas à son maître. Il faut dire aussi que Balthus, je vous parlais du monde de l'enfance, on voit aussi dans sa correspondance qu'il était extrêmement réticent, voire hostile au monde des adultes. Le monde des adultes qui raisonne, qui pense, qui décrète, qui condamne, qui tue. Et dans sa correspondance, on voit qu'avec la femme qu'il aime, Antoinette de Watteville, il se situe, il le dit dans une lettre, sur un mur, en train d'observer le passage de ces adultes qu'il méprise. Il a des paroles extrêmement virulentes contre le monde des adultes.
Ouais.
Donc je crois que le monde des adultes, c'est aussi la pensée résonante qui va analyser, déflorer le mystère, et passer à côté d'ailleurs la plupart du temps. Et Balthus a été extrêmement réticent, voire rétif, à des analyses qui finalement le réduisaient à ce qu'il n'était pas.
Alors Balthus, vous venez nous l'expliquer, était au fond assez réticent, mais ça s'explique assez bien dans la mesure où c'est un autodidacte complet, on est d'accord. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui s'est lancé en peinture de la manière la plus simple qui soit.
Oui, je dirais que son père était historien d'art, sa mère était Merline, était aquarelliste, et il a vécu dans un monde très cultivé. Il a connu Bonnard, etc. Son père lui parlait de Cézanne. Donc, dans les années 1910, peut-être peu d'enfants avaient un tel milieu culturel. Donc, il était comme... C'est parti d'une évidence de devenir artiste, peut-être, pour Balthus. Et un des chocs premiers de son enfance d'artiste, c'est le choc avec Piero della Francesca. Voilà, c'est une référence dont il parlera toujours, parce qu'il a été fasciné à l'âge de 18 ans par les fresques qu'il a vues à Arezzo, les fameuses fresques de Piero della Francesca. Mais au-delà de cette fascination peut-être formelle, picturale, je pense, c'est ce que j'essaye de développer dans ce livre, entre autres, qu'il a eu accès, grâce à Piero della Francesca, à un monde justement enfantin qui est rempli aussi de terreur, qui continue à vibrer dans le monde de Piero della Francesca. Il s'est senti son frère formellement, mais peut-être aussi plus profondément à travers les tourments qui peuvent apparaître en filigrane d'une peinture très stylisée, très belle, très somptueuse de Piero della Francesca.
Jacques Biollet est notre invité, avec lui nous parlons de Dans la rue de Balthus, son roman paru aux éditions Biro. On se pose beaucoup de questions aujourd'hui, et c'est le cas grâce à cette exposition intitulée Controverses, présentée au musée de l'Élysée à Lausanne, sur la représentation de la nudité, notamment à partir du moment où il s'agit d'enfants mineurs. On a fait ces reproches également à Balthus, qui parfois utilisait de très jeunes modèles pour les peindre dans des situations tout à fait étonnantes, voire scabreuses. C'est le cas de cette fameuse leçon de guitare. C'est un tableau complètement sidérant, dans lequel, je le décris brièvement, on voit une jeune femme dont le sein droit est apparent, maltraiter une très jeune fille allongée sur ses cuisses, jeune fille dénudée avec une guitare à leurs pieds. Alors, comment est-ce que on peut faire cette différence entre peut-être le mauvais goût de la représentation et puis ce qui est de l'ordre du domaine artistique, et effectivement de peut-être cette erreur qui ont toujours inspiré Balthus tout au long de sa vie, parce que ça lui a été reproché.
C'est l'image d'Épinal un peu d'un Balthus trouble, à l'érotisme trouble. Et le tableau dont vous venez de parler, c'est peut-être celui qui a fait le plus scandale. Balthus, pendant des années, ne voulait pas qu'il soit exposé. Ça s'appelle la leçon de guitare. Et Balthus a dit qu'à l'âge justement de 25 ans, il a fait ce tableau pour scandaliser. Peut-être que c'est la réalité, mais toujours est-il que c'est intéressant. C'est ce que je dis dans ce livre. Qu'est-ce qu'il a choisi pour scandaliser ? C'est ce que j'essaie d'aborder ici. Mais quant à l'érotisme de Balthus, il s'est toujours défendu de faire des tableaux érotiques. Et on s'est souvent moqué, je dirais, de cette affirmation en disant mais c'est évident que c'est érotique. Et c'est même un érotisme trouble, puisque des modèles assez jeunes sont présentés. Mais certains biographes comme Nicolas Fox Weber, qui a écrit un livre important en 1999, une grosse biographie, un Américain, lui continuellement défend l'idée que Balthus nous trompe, nous manipule, nous mène en bateau, et qu'on va essayer, comme un inspecteur, de lui faire dire la vérité ou lui avouer ses crimes, je dirais.
Alors Fox Weber, il va très très loin, parce qu'il remet même en cause les origines et l'arbre généalogique de la famille. Enfin,
ça
va très très loin.
Je trouve pas ça très intéressant.
C'est pas très intéressant.
Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que il me semble plus intéressant, quand un peintre est vivant, d'essayer de prendre pour appui ce qu'il va dire. Et Balthus, je pense avec sincérité, parle d'ange quand il parle de ses effigies, de ses jeunes personnes. Et peu importe si nous on y voit autre chose, si on y voit un érotisme trouble, mais je crois que Balthus n'y voyait aucun érotisme trouble. Alors je pense qu'il est intéressant d'entrer dans la démarche du peintre pour voir comment, dans sa vie, il a été amené à peindre ses effigies de la pureté à travers ses jeunes modèles. Et le jeune modèle, c'est aussi l'univers d'avant la maturité, et après la maturité d'une femme, il y a la vieillesse, il y a la mort, il y a tout ce parcours de la vie à la mort. Et je pense que Balthus s'arrête sur ce moment de l'existence où la mort est encore absente et où tout est éclosion et promesse. Et je pense que on a souvent vu Balthus, j'irais dans la grande presse, non pas les écrivains que je viens de citer, par le petit bout de la lorgnette. J'essaye de montrer comment ces effigies sont aussi, d'une certaine manière, des alter-ego. Le peintre aussi, comme tous les peintres, ne cesse de se peindre. Comme Van Gogh, qui peignait un paysage, il se peignait, il ne cessait de faire des autoportraits. Et je pense que le chat, qui est un alter-ego, ça, Balthus l'affirme, et la jeune fille, dans sa pureté, dans son désir de rester dans ce monde diaphane, pur de l'enfance, sans accès à la mort, à la fin de la vie, à tout ce qui appartient au monde de l'adulte, je crois que Balthus est fidèle à cet univers-là.
Mais de la part de quelqu'un qui a vécu très vieux, on a le sentiment qu'il regrettait au fond que la jeune fille devienne femme. C'est un petit peu son discours. C'était dire, je voulais je veux figer ce moment d'innocence, oui, et de perfection où au fond on est encore protégé du monde.
Oui, mais il faut bien s'imaginer une chose, c'est quand un peintre est devant un chevalet, devant une toile blanche, il va peindre, je dirais, ce qui lui semble le plus précieux. Il va peindre, voilà, le plus précieux, ce qu'il ne voit pas dans l'univers d'ailleurs. Et Balthus, je lisais il y a quelques temps, je relisais un livre de François Rouen qui s'appelle Balthus ou son ombre, qui parle justement du travail pictural de Balthus dans ses dernières années, où il travaille des années sur un tableau, comme presque comme un fresquiste pardon, qui travaille sur un mur et qui reprend, qui enlève, qui remet. Il est à la recherche d'une manière presque pathétique d'une vibration qui appartient à l'enfance et qui le met, je pense, dans une joie presque céleste, parce qu'il atteint quelque chose d'extrêmement précieux, de beau, de pur, auquel il tient et qu'il a risqué peut-être de perdre dès l'âge de ses 10 ans et auquel il a voulu toujours rester fidèle. C'était étonnant, par exemple, de parler avec la fille de Balthus. Balthus était assez âgé quand elle est née. Et Balthus, à l'âge de 70 ans, 80 ans, regardait des films,
des dessins animés.
Des dessins animés, ouais, ouais. Voilà. S'émerveillait comme un enfant, ouais, de feuilleter des livres d'enfants avec sa fille. Donc, je crois que Balthus est un peintre très atypique qui, comme Picasso d'ailleurs, ouais, a essayé de garder un contact profond avec cet univers-là, comme si cet univers-là est la source même de son inspiration.
On va écouter un petit peu de musique, Jacques Biollet. Je vous rappelle que Jacques Biollet est notre invité pour parler avec lui de Dans la rue de Balthus, son roman paru aux éditions Biro. Et puis nous continuerons bien sûr de parler de ce peintre Balthus.
Sur la première, Pierre-Philippe Cader.
C'est comme un jour ordinaire, ouvert à l'inattendu, sur le boulevard de la mer, parler à une inconnue. C'est le temps d'une rencontre, comme un instant suspendu, sur le cadran de la montre. Un bateau qui prend le large des sentiments clandestins. C'est le murmure d'une plainte qui se fige à l'intérieur. C'est l'esquisse d'une étreinte.
Oh,
Moderato Cantabile, Pascal Rinaldi, vous écoutez à première vue, il est 13h22, vite, vous êtes en retard pour aller au bureau. Notre invité est Jacques Biollet, avec lui nous parlons de la peinture de Balthus. Je me posais une question à la lecture de votre livre paru chez Biro Éditeur, Jacques Biollet, où donc, je rappelle, vous mettez en scène deux protagonistes, oui. Je vais cesser d'employer ce mot que je n'arrive plus à prononcer, voilà. Deux héros, Guido et Sofia, dont la fascination pour les travaux de Balthus va les amener, oui, au fond à enquêter sur, voilà, ce qui est présent dans l'image. Et vous savez, il y a toujours cette question de la posteriori, c'est-à-dire qu'on prête des talents divinatoires aux artistes, aux auteurs, après que les événements se fussent passés, en disant, mais regardez, il avait tout prévu dans ce tableau, dans ce livre, déjà il en parlait. Et c'est cette espèce d'intention que nous avons, que nous n'avons pas d'ailleurs parfois, mais qui fait qu'on prête aux gens des talents de prédicateurs pratiquement, quasiment, lorsque l'on s'intéresse à leurs œuvres. Et je reviens à ce tableau de Larchant, tableau donc qui présente un espace de campagne, c'est une tranche, voilà, de campagne au soleil couchant. C'est un tableau qui a été peint en 1939. Voilà. Et lorsque vos deux héros examinent attentivement le tableau, ils sont troublés par plusieurs choses. Et ils se rendent compte que la lumière telle que Balthus l'a voulu sur le tableau amène forcément le regard vers le toit de l'église de Larchant,
oui,
et que lorsque l'on masque la partie droite de l'église, ne reste que le clocher de l'église à gauche, et l'interprétation qui est faite de cette image, c'est la guillotine. Alors, est-ce que là, c'est pas aller un peu loin dans l'imagination, ou est-ce que vous avez des éléments qui vous permettent effectivement de dire que Balthus, dans son tableau, a introduit ces espèces d'éléments très étranges, comme un peu subliminaux, vous voyez, mais...
Je pense qu'il n'a rien introduit. Et je pense que Balthus n'a pas vu cette silhouette de guillotine. Mais ce qui est intéressant, si on parle de ce tableau de 1939, il a suscité, il a inspiré certains poètes. Je vous cite un vers, par exemple, ici, de Pierre-Jean Jouve. Un seul vers. Ouais. Tes pieds frais essuieront le sang noir de barbare cervelle. Il ne voit pas de guillotine, mais il écrit ça quand même. Et moi, je pense que...
Mais lorsque, je vous interromps, mais, parce que là, vous venez de citer cet extrait-là, mais lorsqu'on lit plus loin que ce tableau annonce les fureurs et les plaies à venir, et est-ce que c'est pas aller un peu loin en besogne quand même ?
Alors, je dirais, quand moi, ce tableau... comme beaucoup de monde, comme presque tout le monde, avait un côté effrayant. Mais on ne sait pas ce qui est effrayant. Et Balthus lui-même, je pense, ne savait pas ce qui était effrayant. Et pour mon compte, alors là, je vous raconte un aspect personnel, j'étais devant ce tableau que j'avais déjà vu à Venise, et j'étais là, qu'est-ce qu'il y a d'effrayant dans ce tableau ? Je me disais, qu'est-ce qu'il y a d'effrayant ? Et là, je suis un peu comme ce personnage Sofia qui se pose cette question. Et ben, comme vous dites, c'est un paysage comme ça, qui n'a en soi pas de motif caché, une armée cachée, ou un cadavre, ou Dieu sait quoi, il n'y a rien de caché. Ouais. Mais il ne cesse de nous effrayer. Et à un moment donné, mais je ne l'ai pas désiré, c'est comme ça que c'est arrivé, j'ai vu qu'en masquant, en ne regardant pas, en oubliant un peu une partie de l'église, effectivement, il y a la silhouette d'une guillotine qui apparaît. Mais je ne l'ai pas voulu ni désiré, elle m'est apparue comme ça. Ouais. Et je prétends que les choses apparaissent jamais devant une reproduction. Il faut être devant le tableau, l'original, absolument. Comme c'est en étant en face d'une personne que vous allez dire si vous allez l'aimer ou pas. Ouais. Je pense pas qu'on veut tomber amoureux sur Internet, en fait. Ouais. Il faut voir une personne. Donc, je crois qu'il faut voir un tableau pour être dans la vibration du tableau, puis à un moment donné, voir quelque chose. Mais moi, je ne suis pas forcément à la recherche de ce genre de décryptage. Ça m'est apparu, tout simplement. Et ensuite, j'étais stupéfait de voir, en lisant Pierre-Jean Jouve, que lui-même avait dû percevoir... Il y a d'autres passages où il parle de sentence, d'exécution. Ouais. C'est quand même troublant. Donc, je ne suis pas le seul. Et ensuite, je continue l'enquête et je vois que, comme l'a déjà révélé Jean-Claire, que Balthus avait son atelier proche du lieu où a été mise au point la guillotine. Ensuite, etc., l'enquête continue. Il vivait non loin de la prison de la santé où des gens étaient guillotinés. Voilà, j'amène des éléments en faveur de l'idée que peut-être dans les années 1910-1920, non pas l'adulte, mais le petit garçon qui était Balthus a peut-être, comme d'autres, était troublé, mais sans même qu'il le sache, sans même que ça affleure au niveau de sa conscience, par ce phénomène très particulier que des hommes coupent la tête à d'autres hommes. Voilà. Ouais, ouais. Et on peut imaginer qu'en 1939, quand Balthus voit ce paysage pour la première fois, il est lui-même, et il le dit, subjugué par ce paysage, et il veut le peindre. Et c'est là que je parle de cette notion de crack. Vous savez, je parle souvent de cette notion de crack qui est due à Balthus, qui lui-même la tenait d'un écrivain anglais. C'est-à-dire que Balthus, suivant le conseil de Rilke, essaie de faire basculer son tableau dans le crack. Mais qu'est-ce que c'est le crack ? C'est une bascule à la fois dans l'étrange et le merveilleux. Donc là, c'est aussi deux aspects de l'enfance, l'étrange et le merveilleux. Le tableau va basculer dans le crack. Et quand Balthus voit ce motif, je pense qu'il voit un motif qui peut aller dans le crack. Mais il ne sait pas, il sait pas parce qu'il y a une guillotine. D'ailleurs, mon héros, pour ne pas prendre le terme de protagoniste, répond à Sophia, mais jamais il a voulu délibérément mettre cette guillotine. Mais je pense que la présence latente, subliminale, comme vous l'avez dit, de cette guillotine, fait que cette ruine d'église agite en nous une sorte d'inquiétude latente. Mais vous savez, je pense qu'on peut très bien regarder ce tableau sans jamais avoir vu cette guillotine et on se contentera de l'imaginer très troublant. Mais comme je vous l'ai dit, eh ben, à un moment donné, ça m'est apparu, cette guillotine. Et la silhouette, je ne crois pas que c'est tiré par les cheveux, elle est là, avec le couteau, le tranchoir qui a une certaine forme. Voilà. Et ensuite, comme ces deux personnages poursuivent leur investigation, essayent d'en savoir un peu plus sur d'autres œuvres de Balthus, ils sont forcément troublés par cette espèce de leitmotiv, la guillotine, la sentence qui revient dans l'œuvre de Balthus.
C'est-à-dire, il se passe une chose ensuite, une fois qu'on a commencé ce livre, c'est qu'on ne regarde plus un tableau de la même manière. Hein. Et donc on cherche des éléments que d'autres n'auraient pas découverts. Moi, dans ce tableau consacré à l'Archant, donc peint en 1939, je voyais un corps allongé avec une main à gauche, les rochers en fait seraient une main, enfin voilà. Mais alors, vous allez plus loin, c'est que vous nous expliquez, Jacques Biollet, que sur cette peinture, le passage du commerce Saint-André...
Un grand tableau.
Très très grand tableau qui fait 2,94 m par 3,30 m, donc c'est vraiment très grand. On y voit un chien au milieu de la rue qui effectivement a l'air d'un mouton. Et on ramène ça encore une fois à la guillotine et au fait que Balthus travaillait près de l'endroit où la guillotine a été inventée, c'est que pour tester l'efficacité de son invention, comme tout inventeur doit le faire, eh bien l'inventeur de la guillotine a guillotiné des moutons.
Voilà.
Donc on fait encore une fois le lien.
Oui, bien sûr. Je pense que Balthus, comme certains médiums, peut, en étant dans un endroit, s'imprégner de ce qui a existé dans cet endroit. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent entrer dans une maison et dire bien ici, quelqu'un s'est pendu. Et effectivement, sans qu'ils connaissent l'histoire de cette maison, il y a 30 ans, quelqu'un s'est pendu. Et je pense que Balthus a cette capacité de percevoir des vibrations dans un lieu. Donc dans la cour du commerce Saint-André, qu'il a peint sur ce grand tableau, qui sera d'ailleurs présent dans l'exposition à la Fondation Giannada à partir du mois de juin, un tableau monumental qui a un côté effrayant et fascinant, il est vrai que j'avance que certains éléments qui évoquent l'expérimentation de la guillotine qui a eu lieu dans ces lieux existent dans ce tableau. Et il est vrai qu'on savait que cette guillotine a été expérimentée sur des bottes de paille.
Ouais.
Mais ensuite, j'ai trouvé dans une biographie du docteur Guillotin cet élément que l'expérimentateur Röderer, qui était un facteur de piano, a essayé aussi d'expérimenter sa machine avant qu'elle soit efficace, avant qu'elle soit expérimentée officiellement à la prison de la santé. Pardon, à l'hôpital de Bicêtre, il a essayé de la faire fonctionner sur des moutons. Mais je prétends que Balthus n'a absolument pas voulu faire référence à ça, mais je crois que comme un médium, il a été impressionné, imprégné de l'ambiance qui perdure dans ce lieu. D'ailleurs, moi, j'y suis allé. Il y a quelque chose, je ne suis pas médium, mais il y a quelque chose d'assez effrayant pour moi dans ce lieu-là. Mais peut-être parce que j'étais imprégné par le tableau.
Parce que
via
vous le savez,
tableau,
oui, bien sûr.
Voilà, via le tableau. Alors, vous savez, je ne pense pas qu'il est nécessaire, en voyant un tableau, de toujours vouloir décrypter un mystère. Moi, je peux tout regarder plein de tableaux en admirant le mystère, et les vibrations qui nous parviennent sont d'autant plus profondes et belles que le mystère est présent. Mais pour Balthus, c'est vrai que certains tableaux ont provoqué chez moi un tel effarement, une telle impression, un tel malaise parfois, que j'ai voulu, par curiosité personnelle au départ, essayer d'en savoir un peu plus. Puisque, comme je vous le disais, au début j'étais muet face à ça.
Vous parliez de malaise, Jacques Biollet. Est-ce que l'art doit être nécessairement beau ? C'est la question qu'on se pose régulièrement, ou qui est posée régulièrement. Peut-on considérer que les tableaux de Balthus soient beaux ?
Oui, Je pense qu'il y a une beauté. Balthus est très attaché à une beauté de la matière. Il a beaucoup travaillé sur les fonds, il voulait une couleur mate. Il avait parfois l'obsession d'atteindre une matière qui s'approche de celle de Piero della Francesca, qui travaillait sur un mur. Donc Balthus fuit les brillances. Il y a toute une recherche de peintre. Un peintre, c'est aussi quelqu'un, ou avant tout quelqu'un, qui s'intéresse à la matière de sa peinture, plus qu'au sujet au départ. Donc Balthus, c'était un acharné qui voulait trouver une matière qui vibrait d'une certaine manière. Et dans ce tableau, d'ailleurs, le passage du commerce Saint-André, quand on s'approche de ce tableau, il y a une vibration très particulière que Balthus voulait trouver. Donc, il y a une part de beauté dans cette matière qui vibre. Ensuite, il y a les sujets, bien sûr. Ils sont parfois beaucoup moins inquiétants. Balthus a aussi peint de superbes paysages parce qu'il a pu, je crois, à la faveur de toute cette démarche où il peint des scènes très inquiétantes, il a pu aussi, d'une certaine manière, s'en libérer et accéder à des tableau où l'harmonie, la beauté de la forme, l'admiration pour un paysage sont au centre de ses intentions.
Mais pourtant, certains personnages, et je reprends encore une fois l'exemple de ce passage du commerce Saint-André, on voit notamment les enfants, enfin l'enfant présent dans la petite fille qui joue avec sa poupée présente dans la rue, elle ressemble à une petite fille véritablement, mais les autres personnages, on pourrait dire qu'ils sont sans âge, enfin ils ont parfois des corps grotesques, difformes, et sur d'autres tableaux, notamment les poissons rouges, on ne sait pas si, encore une fois, les deux personnages présentés dans ce tableau sont des enfants ou des adultes, les corps, les têtes sont disproportionnées par rapport au corps, il y a quelque chose qui
dérangeant.
Est mal à l'aise, c'est très dérangeant.
Voilà. Mais vous savez, on peut évoquer Picasso, vous voyez, qui a été un peintre qui a aussi beaucoup déformé, mais encore plus la forme humaine. Et bien, je crois que c'est aussi une tendance de l'enfant qui casse son jouet, qui le déforme, qui veut démonter finalement, qui veut aller au-delà de l'apparence. Et Balthus, je pense, a cette démarche qui inclut dans sa vision des aspects disproportionnés, dérangeants. À la recherche de ce crack dont je parlais, il a toute une panoplie d'armes ou d'astuces. Il va créer des disproportions, il va créer des déplacements, il va créer des surprises. Et sans cesse, il va travailler sur la toile pour fuir ce qu'il trouve anecdotique. Dans une lettre à son père, il dit à quel point il fuit l'anecdotique. Et je pense qu'à la faveur de cette fuite de l'anecdotique, il fuit aussi un sens immédiat qui pourrait émerger du tableau. C'est un casseur de sens, d'une certaine manière. Et je prends l'exemple dans le livre de cette petite fille qui joue avec un chien, une petite ficelle. C'est ça l'esquisse du tableau. Mais ensuite, le chien s'en va. Il n'y a plus que la ficelle, la petite fille, parce que le sens était trop immédiat. Et à la faveur, justement, de cette expulsion continuelle de ce qui est anecdotique, Balthus, je pense, s'est créé une sorte de rhétorique picturale où l'étrange a sa place parce que le sens immédiat n'a pas la sienne.
C'est-à-dire que c'est, au fond, ce qu'on ne voit pas qui aurait peut-être, dans certains cas, plus de sens que ce que l'on voit.
Eh bien, oui.
Vous-même, en tant que peintre, Jacques Biollet, est-ce que ça vous a aidé à comprendre la démarche, ou au contraire, ça a complexifié votre relation avec les tableaux de Balthus?
Vous voulez dire ma démarche de peintre?
Oui.
C'est-à-dire qu'un peintre, je crois, est comme un poisson dans un bocal. Il ne connaît pas très bien l'eau dans laquelle il nage. Donc je pense qu'il vaut mieux pas trop analyser sa propre eau natale. Alors moi, je peins des images qui me sont chères. Je suis moi-même surpris par ce qui émane donc de moi. Et on est plus soumis à ce qu'on peint que le dirigeant, finalement, de ce qu'on peint.
Alors, Jacques Biollet, j'en profite pour signaler que vous exposez en ce moment, que l'on peut voir vos tableaux. C'est à la Galerie Arcane, donc à Corcelles, dans le canton de Neuchâtel. Le samedi 5 avril, c'est jusqu'au 3 mai, voilà, je vais y arriver. C'est jusqu'au 3 mai et c'est ouvert du mardi au vendredi de 17h30 à 19h et le samedi
près
de 14h à 17h. Oui, absolument, c'est près de Neuchâtel. Donc, c'est rue de la Cure 2, la Galerie Arcane, où on peut voir une partie de vos peintures. Nous continuerons cette discussion passionnante sur Balthus en votre compagnie, Jacques Biollet, après cette jeune fille. Elle s'appelle Duffy.
I love you.
S'appelle deux filles, elle a presque la même voix que, comment s'appelait-elle, Carmel, hein, Carmel, il y a une vingtaine d'années de ça, voilà, ces voix presque, tout est presque dans le nez, on va dire, voilà, Sally's Gone, ça s'appelait la chanson, mais oui, on me fait signe que oui, voilà, absolument, quelle mémoire, incroyable. Notre invité, Jacques Biollet, avec lui nous parlons de Dans la rue de Balthus, roman paru chez Biro éditeur, roman qui s'attache à, enfin qui tente de percer le mystère de certaines toiles de Balthus. Alors bien évidemment c'est toujours très compliqué de parler de peinture ou de photographie ou de cinéma à la radio, donc on prend quelques exemples comme ça pour vous faire un petit peu envie à vous auditeurs, mais je rappelle que avec ce livre il y a un insert qui présente les tableaux dont il est question dans ce livre. Et lorsque l'on regarde ce petit livret qui accompagne le livre, on se dit qu'au fond, Balthus, alors je peux me tromper, mais enfin en tout cas lorsqu'on voit ça, on se dit que voilà, il a trouvé son style, on va dire, et puis ensuite il a continué avec évidemment quelques légères adaptations, oui, ou quelques légers écarts, mais c'est pas quelqu'un qui a connu des périodes vraisemblablement.
Oui, quoique il y a certains critiques qui pensent pas tout à fait ça. Il y a une exposition par exemple qui a eu lieu à Cologne cet été sur Balthus, et Sabine Revald, qui en était l'organisatrice, la commissaire, a arrêté son choix des œuvres à 1960, disant que Balthus n'était plus très intéressant au-delà. Donc vous voyez, les avis sont partagés, et moi je pense que c'est intéressant d'étudier ou de percevoir l'entier du parcours d'un artiste. Et je crois que Balthus a pu, comme je l'ai dit auparavant, se libérer de certains démons pour accéder à une peinture dans la fin de sa vie peut-être plus apaisée et qui était plus un éloge ou un acte d'admiration envers la nature, envers la femme, envers la figure humaine. Dans les tableaux dont on parle, qui sont des années 30, il n'a que 25 ans, c'est un jeune homme, et peut-être que les tourments qu'il habitait sont plus présents.
Mais vous-même, vous en pensez quoi, effectivement, de sa peinture après, on va dire, 1960?
Eh bien, Bien sûr.
Vous êtes bien embêté là.
Oui. C'est-à-dire que moi, je pense que il y a des grands peintres. Et Balthus n'est non seulement un grand peintre, mais c'est aussi un grand artiste, dans le sens où il nous parle parce qu'il fait vibrer certaines émotions qui appartiennent à un fond commun de l'humanité. Je parlais de l'enfance, mais Balthus, je pense, touche des questions fondamentales de notre condition humaine, à savoir notre finitude, notre mort, l'érotisme, le désir. Et je pense qu'un grand artiste qui touche à des entités si fortes nous parle. Alors je crois que c'est non seulement un grand peintre, mais un grand artiste, dans la mesure où il a cette capacité de nous interroger ou de faire vibrer en nous des réalités qui sont tapies, muettes, et qui souvent n'apparaissent que dans nos rêves.
Oui. Jacques Loustal, qui est un très grand dessinateur de bande dessinée, dont la culture concernant la peinture et les peintres d'une manière générale est tout à fait encyclopédique et passionnée et passionnante, prétend s'être souvent inspiré de Balthus pour ses dessins. Il a même repris certains tableaux de Balthus dans ses bandes dessinées. Je pense notamment à Thérèse Rêvant, ce tableau de 1938 qu'il a adapté. Il disait que pour lui, Balthus était comme le peintre américain Edward Hopper, le peintre de l'immobile. Vous êtes d'accord avec cette idée ?
Oui, je pense qu'un peintre est... Un vrai peintre est toujours le peintre de l'immobile, parce que je pense que l'immobilité, la fixité est comme une revanche face au mouvement, face à l'éphémère et face à la mort d'une certaine manière. Alors je crois que Balthus a cette capacité d'arrêter une scène pour nous montrer l'au-delà de notre réalité humaine.
Ouais. Et alors ce fameux crack dont on parle là depuis un petit moment, qui est donc cette sorte de faille spatio-temporelle qu'il y a dans le tableau, qui nous permet de pénétrer
dans
un autre monde, d'après vous, Jacques Biollet, est-ce que cette faille, elle existe chez d'autres peintres, ou c'était un procédé propre à Balthus ?
Je pense que c'est un procédé propre à Balthus, et surtout qui a été verbalisé par Rilke, qui était son mentor. Donc je pense que Balthus, quand on lui demandait quelle était la qualité principale d'un homme, il répondait la fidélité. Et je pense que c'est très éclairant pour comprendre Balthus. Balthus restait fidèle à Piero della Francesca, fidèle à Rilke, qui l'a parrainé d'une certaine manière. Et quand j'écrivais ce livre...
Fidèle à lui-même, parce qu'il est par exemple en plein mouvement surréaliste.
Oui, il est resté lui-même.
Il est resté lui-même, alors que tout le monde se ruait vers le surréalisme. Lui, il détestait ça. Voilà. Enfin, pour lui, c'était de la petite peinture.
Le courage d'être lui-même. Bien sûr, quand ce livre ne sera jamais lu par Balthus, puisqu'il est décédé. Mais quand j'écrivais ce livre, j'avais l'ambition ou le désir secret que les proches qui le liraient, donc je pense au fils de Balthus et à sa fille ou à sa veuve, retrouveraient le Balthus qu'ils ont aimé. Et pour moi, c'était une étape très précieuse. En 2005, quand ce livre, il n'était pas encore publié, mais il existait sous forme de tapuscrit, le fils de Balthus, par quelques détours, je ne savais pas, a eu en main ce tapuscrit. Il s'est dit enthousiasmé par ce livre. Je ne le dis pas pour me valoriser, mais parce que son enthousiasme a été très important pour moi, parce que le fils aîné de Balthus, Stache Klossowski de Rola, a suivi de près l'œuvre de son père. Il a écrit à ce sujet. Et pour moi, le fait qu'il ait aimé ce livre, qu'il ait retrouvé son père, qu'il a été très, très touché par ce livre, était pour moi quelque chose de précieux, dans le sens où je me suis dit, tiens, peut-être que je suis moi-même fidèle à ce que Balthus a dit de sa peinture. Parce que je ne suis, même si j'ai fait une œuvre, entre guillemets, d'analyse, je n'aime pas les élucubrations. C'est-à-dire qu'à partir d'une œuvre, on peut aussi dire n'importe quoi. Alors j'ai essayé, à travers ce roman, d'avancer pas à pas, modestement, avec parcimonie, en développant certaines thèses, mais aussi en les attaquant d'une certaine manière, en n'ayant pas une ligne droite. Et je pense que le roman, permet cette oscillation d'une thèse à une autre. Ça permet d'hésiter, ça permet aussi d'avancer des arguments très forts, parce que bien sûr, je veux quand même être convaincant. Mais tout ce parcours est peut-être plus intéressant que le parcours d'un essai où il s'agit d'une manière rationnelle d'avancer et d'imposer une vision des choses. Mon souhait serait qu'après ce livre, on en sache beaucoup plus sur Balthus, je l'espère, mais aussi que le mystère reste entier. D'une certaine manière, le mystère peut être approché, peut être décrypté, il peut fasciner, mais il doit garder sa virginité d'une certaine manière. Et celui de Balthus est si bien gardé d'une certaine manière qu'au-delà de tout ce qu'on peut écrire sur lui, il va garder sa pureté ou son aspect inviolé.
lui-même était de toute façon un mystère ambulant, puisqu'il refusait de s'exprimer sur lui. Oui. Au fond, il était.
voilà, c'était quelqu'un. On est tous finalement un mystère pour nous-mêmes. Ouais. Et un peintre ou un écrivain qui, je pense à Balthus, qui sa vie durant a exploré ce qui le fascinait, est un mystère pour lui-même.
Jacques Biollet, invité donc d'à première vue pour parler de ce roman paru chez Biro Éditeur, Dans la rue de Balthus. C'est un gros livre.
Hein. Oui, c'est un livre assez volumineux. D'ailleurs, j'ai eu la chance de collaborer avec un éditeur qui a justement joué le jeu d'insérer ce petit livre de 26 illustrations, des images noir-blanc qui permettent de suivre le parcours de cette aventure, parce que sans tout cela, on serait un peu désarçonné. Il faut que l'image soutienne l'avancée de la lecture.
Absolument. Sinon, on est obligé de lire et d'être en même temps sur Internet pour trouver.
Oui.
C'est un petit peu compliqué. Et puis, je l'annonce aussi que vous serez en dédicace à la librairie Albert Legrand à Fribourg demain, donc vendredi entre 17h et 18h30, ainsi que chez Payot à Lausanne samedi entre 11h et 13h. Et puis, je vous l'avais annoncé en début d'émission, vous savez qu'Aimé Césaire est décédé. Avant de retrouver Sébastien Danchin, qui est historien et qui a consacré un documentaire à Aimé Césaire pour nous parler un petit peu de la vie de cet homme, je vous propose d'écouter Négritude par Lamine Conté. C'est une mise en musique d'un poème d'Aimé Césaire.
Ceux qui n'ont inventé ni la poutre ni la boussole, ceux qui n'ont jamais su dompter ni la vapeur ni l'électricité, ceux qui n'ont exploré ni les mers ni le ciel, mais ils savent en ses moindres recoins le pays de souffrance. Ceux qui n'ont connu de voyage que de déracinement, ceux qui se sont assoupis aux agenouillements, ceux qu'on domestiqua et christianisa, ceux qu'on inocula d'abattardissement. Tam tam de main vite, tam tam inane de plaies sonores, tam tam burlesque de trahison d'habit. Il y a de petits matins de chaleur et de peurs ancestrales. Par-dessus bord, mes richesses pérégrines, par-dessus bord, mes faussetés authentiques. Mais quel étrange orgueil, soudain, tout m'illumine. Ma négritude n'est pas une pierre, sa surdité ruée contre la clameur du jour. Ma négritude n'est pas une tée d'eau morte sur l'œil mort de la terre. Ma négritude n'est ni une tour, ni une cathédrale.
Négritude, donc dit par Lamine Conté, c'est une mise en musique du poème d'Aimé Césaire. Je vous propose de retrouver par téléphone Sébastien Danchin. Bonjour.
Bonjour.
Je le dis, je le répète, vous êtes historien spécialisé, on va dire, au sens très très large, hein, dans la culture noire, qu'elle soit noire américaine ou noire francophone. Je ne sais pas exactement comment on peut dire ça.
Je suis spécialiste des cultures noires.
Des cultures noires.
À la fois la culture africaine et puis surtout toutes les cultures de la diaspora. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'avais pu rencontrer Aimé Césaire à l'occasion de la réalisation d'un documentaire qui était consacré à un congrès qui avait été co-organisé par Aimé Césaire en 1956, et un congrès tout à fait fondateur dont on aura peut-être l'occasion de dire un mot tout à l'heure.
Oui, on peut alors tout à fait en parler. Donc Aimé Césaire, on va le rappeler, était né un 26 juin 1913 à Basse-Pointe, en Martinique. C'était un poète, c'était un homme politique, et il est l'un des fondateurs de ce qu'on a appelé, un mouvement littéraire qu'on a appelé la négritude. Alors évidemment, lorsqu'on dit nègre aujourd'hui, ça a une connotation tout à fait péjorative, mais rappelez-nous, Sébastien Danchin, ce que signifiait ce mouvement de négritude dans ces années-là.
Ben, il faut, je crois, essayer de se replonger dans ce que c'est que le monde français de l'avant-guerre. Le monde français de l'avant-guerre, c'est déjà des colonies comme la Martinique. La Martinique, à l'époque, est encore une colonie. C'est là qu'est né Aimé Césaire, dans une famille de gens qui étaient à la fois lettrés et qui étaient des fonctionnaires. Donc ça veut dire que c'était des gens qui étaient intégrés au système, qui étaient assimilés au système, mais en même temps lui avait bien conscience que cette assimilation, elle se faisait au détriment de ce qui était son, de ce qui était sa culture ancestrale et son patrimoine. Son patrimoine culturel génétique, si vous voulez. Mmh. Et donc il arrive en France, lui c'est un élève brillant, il arrive en France au début des années 30. Il est tout de suite frappé au moment où il arrive en France, déjà c'est 1931, il y a une exposition coloniale à Paris. Et pour vous donner une idée, on expose une femme noire qui est dans une cage comme un animal que, et qui est présentée comme la Vénus Callipyge puisqu'elle avait un fessier bondi. Donc ça donne quand même bien une idée de la façon dont du regard qui était porté par les sociétés dites avancées à l'époque sur tout ce qui était noir et tout ce qui venait d'Afrique en général. Et donc, lui m'a raconté, il m'a dit un jour, je suis dans le quartier latin, j'étais avec des copains, et puis il y a un type qui me croise et qui lui dit, hey, toi le nègre. Alors lui, il se retourne et lui dit, bah, tu sais quoi, le nègre, il t'emmerde. Et à ce moment-là, il dit, bah oui, parce que d'une certaine manière, puisqu'on nous le jetait à la face, et ce mot nègre qu'on nous jetait à la face comme une insulte, et ben on allait retourner la chose. Non seulement c'est pas une insulte, mais on allait le revendiquer. Et la négritude, c'est ça, c'est une revendication suite à un rejet. C'est le rejet du rejet, comme il disait. Mmh. C'est-à-dire, on est rejeté parce qu'on est nègre, et bien nous, on va rejeter ceux qui nous rejettent parce qu'on est nègre, et on va clamer le fait que nous sommes nègres. Et alors après, avec deux amis qui étaient deux... Le concept de la négritude, c'est pas quelque chose qui a été conçu de manière, de manière extrêmement pensée, c'est quelque chose qui est né de manière spontanée dans un discours, dans une situation, entre des étudiants qui étaient... Césaire, Léopold Sédar Senghor, qui était son condisciple à Louis le Grand, qu'il avait connu dès son arrivée à Paris, et puis Léon Gontran Damas, qui était lui originaire de Guyane, et que lui connaissait déjà depuis l'époque de la Martinique. Alors, ils ont créé une revue qui s'appelle L'étudiant noir avant-guerre, et le mot négritude, qui est une espèce de revendication de cet héritage noir, justement, et de cet héritage africain, va apparaître dès ce moment-là, mais c'est après-guerre que la négritude devient, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un mouvement littéraire. Mais il faut voir que parmi les, au sein des trois, chez les trois grands parrains et pères de la négritude, il y avait des conceptions un peu différentes de ce que c'était que ce terme. Certains le voyaient comme un mouvement plus littéraire et intellectuel et culturel. Senghor avait une vision à la limite plus globale, lui, qui était plus, presque plus politique d'une certaine manière de ce qu'était la négritude.
Oui, il disait, lui, je suis plutôt du côté des opprimés. C'est-à-dire, ce concept-là englobait tous les opprimés de la Terre.
Hein. Absolument, c'était le dire, de toute façon, à partir du moment où vous êtes rejeté parce que vous êtes différent, tous ceux qui sont différents ont la même différence que vous, quel qu'il soit. Que ce soit parce qu'ils sont, les différences, elles se manifestent aussi bien avec, à travers le handicap, par exemple, qu'il soit physique ou mental, que à travers la couleur de la peau, la taille, etc. Je veux dire, tout est imaginable. On peut, il y a quand même mille et une façons de séparer les êtres humains et de les d'essayer de diviser pour mieux régner.
Quelle a été l'influence d'Aimé Césaire sur les lettres francophones?
Bah, c'est une influence vraiment considérable parce qu'en même temps, il a montré, à une époque où on en était encore quand même à exhiber les noirs dans des cages, il a montré que l'homme noir, non seulement c'était pas un animal, mais qu'il était, ou alors que c'était un animal comme les autres, exactement comme les autres hommes, et que comme les autres, il était doué de raison et il était doué de la capacité d'écriture. Et c'est un poète extrêmement important. C'est quelqu'un qui a apporté, par exemple, au mouvement surréaliste un éclairage très différent de celui qui était l'éclairage je dirais occidental caractéristique. Ça c'est quelque chose qu'il partage aussi avec Senghor. Senghor disait Senghor opposait toujours un peu ce qu'il appelait la raison hellène, c'est-à-dire la raison qui nous vient nous de nos origines gréco-romaines, à l'émotion africaine. Donc c'était une façon de considérer, de voir comment les cultures pouvaient s'exprimer de manière très différente selon les époques, les patrimoines historiques, etc. Césaire avait une conception moins tranchée de ça. Le problème de la négritude, c'est qu'au bout d'un moment, lui-même a dit, c'est une étape nécessaire et absolument indispensable. C'est une étape, mais ça n'est qu'une étape. une fois qu'elle est dépassée, que justement l'opprimé, on a reconnu qu'il était opprimé et qu'on lui a reconnu son statut d'homme, il n'y a plus besoin de ce concept de négritude. Et c'est pour ça que ce concept a été beaucoup critiqué par la suite et qu'il l'est régulièrement encore par tous les adeptes de l'école suivante, c'est-à-dire c'est la génération suivante, c'est celle de Glissant, de Chamoiseau, etc., qui sont les adeptes de ce qu'on appelle la créolité ou la créolisation.
Alors Aimé Césaire a connu aussi une carrière politique assez incroyable. On n'aura pas vraiment le temps d'en parler, mais je rappelle qu'il a été élu député de la Martinique de 1945 à 1993. C'est quand même un exemple de longévité tout à fait surprenant.
Oui, longévité, ouais. Et je dirais que ce qui est encore plus, et bon, en plus il a été maire de Fort-de-France, ouais, de 45 à 2001, donc c'est encore une plus grande de longévité. Mais justement, ce qui est extraordinaire chez lui, c'est la fidélité à un idéal et non pas à un parti. Il a été élu en tant qu'élu communiste, il a claqué la porte du Parti, ouais, communiste français en 1956 en écrivant une lettre tonitruante au premier secrétaire de l'époque qui était Maurice Thorez, parce qu'il avait tout à fait conscience de ce qu'était la réalité du stalinisme, et il était prêt à la dénoncer, ce qui n'était pas le cas du PCF à l'époque. Et en réalité, lui est resté fidèle aux valeurs mêmes humaniste que sous-tendait le mouvement communiste depuis longtemps, à l'écart de toute tentation d'appareil.
Voilà, alors on en saura un petit peu plus, j'imagine, sur Aimé Césaire, si on ne le connaît pas bien, dans les jours ou les semaines qui suivent. C'est en tout cas ce qu'on se souhaite tous. Merci beaucoup, Sébastien Danchin. Je rappelle que vous êtes historien, spécialiste des cultures noires au sens large, et que vous aviez réalisé un documentaire sur Aimé Césaire. Merci à vous. Et puis, me reste quelques instants pour vous signaler que demain, Patrick Ferlat recevra Antoine Catin et François Collère, deux réalisateurs invités de Vision du réel à Nyon. Je remercie encore une fois Jacques Biollet d'avoir fait cette émission avec nous à propos de son livre Dans la rue de Balthus chez Biro Éditeur. Quant au dromadaire sur l'épaule, toujours au Kazakhstan, mais voilà. Donc à partir de 14h, merci à Jean-Claude Gailly et Rosemarie Mottet et Jean-Baptiste Roumans pour leur collaboration à cette émission. Il est 14h.